Une seule chose est nécessaire. Donner du style à son caractère, c'est là un art considérable qui se rencontre rarement. Celui-là l'exerce, qui aperçoit dans son ensemble tout ce que sa nature offre de force et de faiblesse pour l'adapter ensuite à un plan artistique, jusqu'à ce que chaque chose apparaisse dans son art et sa raison, et que les faiblesses mêmes ravissent l'œil. Ici, une grande masse de seconde nature a été ajoutée. Là, un morceau de nature première a été supprimé. Dans les deux cas, cela s'est fait avec une lente préparation et un travail quotidien. Ici, le lait qui ne pouvait pas être éloigné a été masqué. Là-bas, il a été transformé en sublime. Beaucoup de choses vagues qui s'opposaient à prendre forme ont été réservées et utilisées pour la vision des lointains. Elles doivent faire de l'effet à distance, évoquer l'incommensurable. Enfin, lorsque l'œuvre est terminée, on reconnaîtra comment ce fut la contrainte d'un même goût qui, en grand et en petit, a dominé et façonné. La qualité du goût, s'il a été bon ou mauvais, importe beaucoup moins qu'on ne croit. L'essentiel, c'est que le goût soit un. Ce sont les natures fortes et dominatrices qui trouveront une pareille contrainte, en un tel assujettissement et une telle perfection, sous une loi propre, leur joie la plus subtile. La passion de leur vocation puissante s'allège à l'aspect de toute nature stylée, de toute nature vaincue et assouvie. Même lorsqu'elles ont des palais à construire et des jardins à planter, elles répugnent à libérer la nature. Par contre, ce sont les caractères faibles, incapables de se dominer soi-même, qui haïssent l'assujettissement du style. Ils sentent que si cette amère contrainte leur était imposée, sous elle, ils deviendraient nécessairement vulgaires. Esclaves dès qu'ils serviraient, ils ont horreur de servir. De pareils esprits, et ce peuvent être des esprits de premier ordre, s'appliquent toujours à se donner à eux-mêmes et à prêter à leur entourage la forme de nature libre. Sauvage, arbitraire, fantasque, désordonnée, surprenante, et à s'interpréter comme telle. Et ils ont raison, car ce n'est qu'ainsi qu'ils se font du bien à eux-mêmes. Car une seule chose est nécessaire, que l'homme atteigne le contentement de lui-même, quel que soit le poème ou l'œuvre d'art dont il se serve, car alors seulement l'aspect de l'homme sera supportable. Celui qui est mécontent de soi-même est continuellement prêt à s'en venger. Nous autres, nous serons ses victimes, ne fût-ce que pour devoir supporter son aspect répugnant, car à la vue de la laideur en mauvais et sombre. Gênes. J'ai regardé durant un bon moment cette ville, ses maisons de campagne et ses jardins d'agrément, et le large cercle de ses collines et de ses pentes habitées. Enfin, je finis par me dire, je vois des visages de générations passées. Cette contrée est couverte par les images d'hommes intrépides et souverains. Ils ont vécu et ils ont voulu prolonger leur vie. C'est ce qu'ils me disent avec leurs maisons, construites et ornées pour des siècles, et non pour l'heure fugitive. Ils aimèrent la vie, bien que souvent elle se fût montrée mauvaise à leur égard. J'ai toujours devant les yeux le constructeur. Je vois comme son regard se repose sur tout ce qui, près et loin, est construit autour de lui, et aussi sur la ville, la mer et la ligne de montagne. Et comme sur tout cela, par son regard, il exerce sa puissance et sa conquête. Il veut soumettre ces choses à son plan, et finir par en faire sa propriété par le fait qu'il en devient lui-même une parcelle. Toute cette contrée est couverte des produits d'un superbe et insatiable égoïsme dans l'envie de possession et de butin. Et tout comme ces hommes ne reconnaissaient pas de frontières dans leurs expéditions lointaines, plaçant dans leur soif de la nouveauté un monde nouveau à côté d'un monde ancien, de même, chez eux, dans leur petite patrie, chacun se révoltait contre chacun, chacun inventait une façon d'exprimer sa supériorité et de placer entre lui et son voisin son infini personnel. Chacun conquérait à nouveau sa patrie pour son compte particulier en le subjuguant de sa pensée architecturale, en la transformant en quelque sorte pour sa propre maison en un plaisir des yeux. Dans le Nord, C'est la loi et le plaisir causés par l'obéissance à la loi qui en appose lorsqu'on regarde le système de construction des villes. On devine là cette propension à l'égalité et à la soumission qui doit avoir dominé l'âme de tous ceux qui se construisaient. Mais ici, vous trouvez à chaque coin de rue un homme à part qui connaît la mer, les aventures et l'Orient, un homme qui est mal disposé à l'égard de la loi et du voisin, comme si c'était là une espèce d'ennui, et qui mesure avec un regard d'envie tout ce qui est vieux et de fondation ancienne. Avec une merveilleuse rouerie de l'imagination, il voudrait fonder tout cela à nouveau, du moins en pensée, y appliquer sa main, y mettre son interprétation, ne fût-ce que pour l'instant d'une après-midi de soleil où son âme insatiable et mélancolique éprouve une fois de la satiété, et où son œil ne veut plus voir que des choses qui lui appartiennent et non plus des choses étrangères. Au prédicateur de la morale. Je ne veux pas faire de morale, mais à ceux qui en font, je donne ce conseil. Si vous voulez absolument faire perdre aux meilleures choses et aux meilleures conditions tout leur honneur et toute leur valeur, continuez, comme vous avez fait jusqu'à présent, à les avoir sans cesse à la bouche. Placez-les en tête de votre morale et parlez du matin au soir du bonheur de la vertu, du repos de l'âme, de la justice immanente et de l'équité. Si vous en agissez ainsi, tout cela finira par avoir pour soi la popularité et le vacarme de la rue. Mais alors, à force de manier toutes ces bonnes choses, l'or en sera usé, et plus encore. Tout ce qu'elles contiennent d'or se sera transformé en plomb. Vraiment, vous vous entendez à appliquer l'art contraire à celui des alchimistes pour démonétiser ce qu'il y a de plus précieux. Servez-vous une fois à titre d'essai d'une autre recette pour ne pas réaliser l'opposé de ce que vous vouliez atteindre. Niez ces bonnes choses. Retirez-leur l'approbation de la foule et le cours facile. Faites-en de nouveau les pudeurs cachées des âmes solitaires. Dites: la morale est quelque chose d'interdit. Peut-être gagnerez-vous ainsi pour ces choses l'espèce d'homme qui seul importe. Je veux dire l'espèce héroïque. Mais alors, il faudra qu'elles aient en elles de quoi éveiller la crainte, et non pas, comme jusqu'à présent, de quoi produire le dégoût. N'aurait-on pas envie de dire aujourd'hui, par rapport à la morale, comme Maître Eckhart, je prie Dieu qu'il me fasse quitte de Dieu. Notre atmosphère, nous le savons fort bien. Pour celui qui jette un regard sur la science, seulement en passant, à la façon des femmes et malheureusement aussi de beaucoup d'artistes, la sévérité qu'il faut pour mettre au service de la science cette rigueur dans les petites comme dans les grandes choses, cette rapidité dans l'enquête, le jugement et la condamnation à quelque chose qui inspire la crainte et le vertige. Il sera surtout effrayé par la façon dont on exige ce qu'il y a de plus difficile, dont est exécuté ce qu'il y a sans la récompense de l'éloge ou de la distinction, alors que le plus souvent se font entendre, comme parmi les soldats, le blâme et la verte réprimande. Car faire bien, c'est la règle, manquer en quelque chose, l'exception. Et ici, comme partout ailleurs, la règle est silencieuse. Il en est de cette sévérité de la science comme des formes de politesse dans la meilleure société. Elles effraient celui qui n'est pas initié. Mais celui qui est habitué à elles n'aimerait pas vivre ailleurs que dans cette atmosphère claire, transparente, vigoureuse et fortement électrique, dans cette atmosphère virile. Partout ailleurs, il ne trouve pas assez d'air et de propreté. Il craint qu'ailleurs, son meilleur art ne soit utile à personne et qu'il ne le réjouirait pas lui-même. Que la moitié de sa vie lui passerait entre les doigts, perdue dans des malentendus. Que partout, il faudrait beaucoup de précautions, de secrets, de considérations personnelles. Et tout cela serait une grande et inutile perte de force. Mais dans cet élément sévère et clair, il possède sa force tout entière. Ici, il est à même de voler. Pourquoi devrait-il redescendre dans ces eaux brumeuses où il faut nager, patauger et tacher ses ailes? Non, là, il nous est trop difficile de vivre. Est-ce de notre faute si nous sommes nés pour l'air pur? Nous autres, rivaux des rayons de lumière, qui aimerions mieux, pareil à ces rayons, chevaucher des parcelles d'éther. Non pour quitter le soleil, mais pour aller vers lui. Nous ne le pouvons pas. Faisons donc ce qui est seul en notre pouvoir. Apportons la lumière à la terre. Soyons la lumière de la terre. Et c'est pour cela que nous avons nos ailes, notre rapidité et notre sévérité. Pour cela que nous sommes virils et même terribles comme le feu. Que cela nous craigne, qu'ils ne savent pas se chauffer et s'éclairer auprès de nous. Contre les calomniateurs de la nature. Quels gens désagréables que ceux chez qui tout penchant naturel devient immédiatement maladie. Quelque chose qui altère ou même quelque chose d'ignominieux. Ceux-ci nous ont induits à penser que les penchants et les instincts de l'homme sont mauvais. Ils sont la cause de notre grande injustice à l'égard de notre nature, à l'égard de toute nature. Il y a suffisamment d'hommes qui peuvent s'abandonner à leurs penchants avec grâce et inconscience, mais ils ne le font pas, par crainte de ce mauvais esprit imaginaire de la nature. De là vient que l'on trouve si peu de noblesse parmi les hommes, car l'on reconnaîtra toujours la noblesse à l'absence de crainte devant soi-même, à la capacité de faire quelque chose de honteux, au besoin de s'élever dans les airs sans hésitation, de voler où nous sommes poussés. Nous autres, oiseaux nés libres, où que nous allions, tout devient libre et ensoleillé autour de nous. Courtes habitudes. J'aime les courtes habitudes et je les tiens pour des moyens inappréciables d'apprendre à connaître beaucoup de choses et des conditions variées, jusqu'au fond de leur douceur et de leur amertume. Ma nature est entièrement organisée pour les courtes habitudes, même dans les besoins de sa santé physique, et en général, aussi loin que je puis voir, du plus bas au plus haut. Toujours, je crois que ceci me satisfera d'une façon durable. La courte habitude, elle aussi, a cette foi de la passion, cette foi en l'éternité. Je crois être enviable de l'avoir trouvée et reconnue. Et maintenant, je m'en nourris. Le soir, comme le matin, un doux contentement m'entoure et me pénètre en sorte que je n'ai pas envie d'autre chose, sans avoir besoin de comparer, de mépriser ou de haïr. Et un jour, c'en est fait. La courte habitude a eu son temps. La bonne cause prend congé de moi, non pas comme quelque chose qui m'inspire maintenant du dégoût, mais paisiblement, rassasiée de moi, comme moi d'elle, et comme si nous devions être reconnaissants l'un à l'autre, nous serrant ainsi la main en guise d'adieu. Et déjà, quelque chose de nouveau attend à la porte, comme aussi ma foi, l'indestructible folle, l'indestructible sagesse, ma foi en cette chose nouvelle qui maintenant serait la vraie, la dernière vraie. Il en est ainsi pour moi des mets, des idées, des hommes, des villes, des poèmes, des musiques, des doctrines, des ordres du jour, des usages de la vie. Par contre, je hais les habitudes durables, et je crois qu'un tyran s'est approché de moi, que mon atmosphère vitale s'est épaissie dès que les événements tournent de façon à ce que les habitudes durables semblent nécessairement sortir. Par exemple, par une fonction sociale, par la fréquentation constante des mêmes hommes, par une résidence fixe, par une espèce définie de santé. Au fond de mon âme, j'éprouve même de la reconnaissance pour toute ma misère physique et ma maladie et tout ce que je puis avoir d'imparfait, puisque tout cela me laisse sans échapper par où je puis me dérober aux habitudes durables. Pourtant, ce qu'il y aurait de tout à fait insupportable, de véritablement terrible, ce serait une vie entièrement dépourvue d'habitudes, une vie qui exigerait sans cesse l'improvisation. Ce serait pour moi l'exil, ma Sibérie.